Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9NR3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié par Raphaël Giordano. Le spleen du popcorn qui voulait exploser de joie est un roman contemporain à tonalité feel-good, centré sur Joy, une femme de 34 ans employée dans une agence de celebrity marketing. Dans cet univers professionnel fondé sur la visibilité, le luxe et la performance, elle doute de sa valeur et répond à cette insécurité en augmentant sans cesse son niveau de contrôle. Son mal-être se manifeste notamment par un TOC digital, signe d'une vigilance devenue envahissante. Chargée, à la veille de Noël, de préparer les 10 ans de son agence, Joy rencontre Benjamin, jeune entrepreneur dont la vitalité et le collectif contrastent avec son épuisement. Le roman met ainsi en scène une trajectoire de réajustement plutôt qu'une simple romance ou une fable optimiste. Par une écriture accessible et des situations ancrées dans les codes du travail contemporain, Raphaël Giordano interroge la pression de réussir, le rapport aux écrans, l'estime de soi et la possibilité de retrouver une joie moins conditionnelle. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le celebrity marketing, comme miroir de la pression à paraître, le cadre professionnel de Joy ne sert pas uniquement à donner une couleur moderne au récit. L'agence de celebrity marketing, qui met en relation des personnalités visibles et des marques, concentre des exigences contemporaines précises, soigner son image, séduire, anticiper les attentes et produire une impression de maîtrise. Dans un tel environnement, la valeur semble se mesurer à la brillance, à la capacité de se distinguer et au regard extérieur. Joy ne se croit pas dotée de talents particuliers et transforme ce sentiment en injonction à compenser. Elle travaille davantage, se surveille et tente de ne laisser aucune place à la défaillance. Le livre établit donc un lien concret entre un système professionnel fondé sur la visibilité et une fragilité intime, sans réduire celle-ci à une faiblesse individuelle. Le décor du luxe et des célébrités rend plus visible une logique qui dépasse ce milieu. Beaucoup de personnes peuvent se comparer à des normes élevées et finir par confondre reconnaissance, efficacité et légitimité. Le roman explore ainsi les effets psychologiques de la compétition symbolique. Il montre que la pression ne naît pas seulement des tâches à accomplir, mais aussi de la nécessité ressentie de paraître constamment compétent, disponible et remarquable. Deuxièmement, le TOC digital comme expression d'un contrôle devenu épuisant. Le TOC digital de Joy constitue l'une des images les plus spécifiques du roman. Il ne faut pas le réduire à un simple trait pittoresque, il représente une tentative de calmer l'anxiété par la vérification et la maîtrise des dispositifs numériques. Vérifier, anticiper et verrouiller procurent momentanément une impression de sécurité, mais entretiennent aussi l'état d'alerte qui les rend nécessaires. Le mécanisme est important parce que le numérique ne crée pas à lui seul le mal-être de Joy, il offre plutôt un support immédiat à son besoin de certitude. Dans un contexte où les sollicitations, les messages et les impératifs de réactivité sont permanents, la formule de désapplication évoquée dans le récit prend alors un sens plus large qu'une simple déconnexion technique. Elle suggère la nécessité de desserrer le lien entre l'attention, les outils et la peur de perdre le contrôle. Cette dimension donne au livre une résonance actuelle. La surcharge peut venir d'une succession de micro-gestes de surveillance autant que de grandes crises visibles. Raphaël Giordano utilise ce symptôme avec légèreté, mais sans nier son caractère contraignant. Le parcours de Joy pose une question nette, comment retrouver une marge de liberté quand les stratégies censées rassurer deviennent elles-mêmes source de tension. Troisièmement, la mission des 10 ans de agence et la logique de la surcharge. La préparation de la célébration des 10 ans de agence place Joy devant une mission à la fois professionnelle et symbolique. L'échéance arrive à la veille de Noël, période déjà chargée sur le plan pratique et affectif, et accroît la sensation que tout doit être mené sans erreur. Cet événement condense les difficultés du personnage organisé, coordonné, répondre à des attentes élevées et protéger une image de réussite. Le roman ne présente pas la surcharge comme une accumulation abstraite de travail. Elle se construit par la rencontre entre une responsabilité exigeante, une peur de décevoir et l'incapacité de Joy à s'accorder une limite. Cette distinction est essentielle. Deux personnes peuvent faire face au même projet avec des ressources et des rapports au jugement très différents. Pour Joy, la tâche devient une preuve de valeur personnelle. Le récit met ainsi en lumière la porosité entre identité et performance. Lorsque le travail sert à démontrer que l'on mérite sa place, chaque imprévu menace de prendre une ampleur disproportionnée. La mission narrative permet aussi de faire se croiser le monde fermé de agences et des personnages porteurs d'autres manières de vivre. Elle crée une situation concrète où Joy doit agir, plutôt que recevoir seulement des conseils. Le changement esquissé dans le roman passe donc par l'expérience, les relations et la confrontation de ses habitudes, avec les limites réelles de son épuisement. Quatrièmement, Benjamin et son entourage comme contrepoint au mode alerte de Joy. Benjamin, jeune entrepreneur, décrit comme vivant et optimiste, intervient moins comme une solution magique que comme un contraste avec le fonctionnement de Joy. Son entourage apporte une énergie collective et une spontanéité qui rendent perceptible ce que Joy a progressivement perdu une capacité à accueillir les relations C et les imprévus, sans les traiter immédiatement comme des risques à neutraliser. Ce contraste structure la tonalité feel-good du livre. La légèreté ne vient pas de la négation des difficultés, mais de la présence de personnages qui déplacent le point de vue de héroïne. Face à eux, son état de vigilance permanente apparaît non comme une norme inévitable, mais comme une manière de vivre devenue trop coûteuse. Benjamin permet aussi au roman de ne pas enfermer la transformation dans une introspection solitaire. Les liens sociaux, la circulation de la bonne humeur et la rencontre de pratiques moins rigides peuvent contribuer à réviser les certitudes d'une personne épuisée. Le texte reste toutefois attaché à Joy. Le changement ne peut avoir de sens que si elle reconnaît elle-même les mécanismes qui la tiennent sous pression. La rencontre sert donc de déclencheur relationnel. Elle ouvre un espace où la joie est envisagée non comme une obligation de positivité, mais comme une disponibilité retrouvée envers soi, les autres et le présent. En dernier lieu, le pop-corn et la prise de joie, une métaphore de la reconquête de soi, le titre et le surnom enfantin de Joy organisent une métaphore centrale. Autrefois appelée petit pop-corn par son père parce qu'elle rayonnait de gaieté, elle se perçoit désormais comme proche de l'implosion. L'image possède une double valeur. Le pop-corn évoque la chaleur, le mouvement et une énergie expansive, mais aussi un éclatement bruyant. Cette ambivalence évite de présenter le retour à sa joie comme un processus parfaitement doux ou discret. Se libérer de certaines habitudes, reconnaître son épuisement et modifier son rapport au contrôle peuvent déranger les équilibres installés. La prise de joie débranchée, autre image du livre, formule le problème autrement. Joy ne serait pas dépourvue par nature de vitalité, mais coupée de ce qui lui permet de la ressentir. Le roman se distingue ainsi des récits qui prescrivent un bonheur uniforme. Il relie la joie à des conditions concrètes, se sentir légitime sans surperformance, ralentir, accepter une part de vulnérabilité et sortir de la surveillance incessante. La métaphore conserve une tonalité ludique, conforme au genre feel-good, tout en traitant une expérience reconnaissable de saturation émotionnelle. Elle permet de parler du mal-être sans vocabulaire clinique excessif et de donner une forme sensible au cheminement de Joy. Le texte suggère que retrouver de l'élan implique aussi de supporter le bruit du changement. En conclusion, le spleen du pop-corn qui voulait exploser de joie conviendra particulièrement aux lecteurs de romans contemporains qui apprécient les récits de transformation personnelle ancrés dans des difficultés ordinaires. Il peut parler aux personnes sensibles à la surcharge professionnelle, aux comparaisons liées au monde de l'image ou à la place envahissante des réflexes numériques dans la vie quotidienne. Le bénéfice principal de cette lecture réside moins dans la transmission de méthodes formelles que dans la mise en visibilité de mécanismes familiers, chercher à prouver sa valeur, confondre contrôle et sécurité, ou laisser les exigences extérieures coloniser le rapport à soi. En suivant Joy, le lecteur est invité à considérer ces mécanismes avec une distance accessible, sans que le roman prenne la forme d'un manuel. Dans le paysage du feel-good français, Raphaël Giordano se distingue par son usage de métaphores concrètes et par un cadre professionnel nettement identifié. Le monde du celebrity marketing ne sert pas de simple décor glamour, il rend tangible la pression de paraître brillant et de rester performant. Le toc digital apporte également une image actuelle de anxiété de contrôle, tandis que la rencontre avec Benjamin introduit une dimension relationnelle et lumineuse. Le livre associe ainsi comédie humaine, questionnement sur estime de soi et attention au rythme de vie. Il séduira surtout ceux qui recherchent une fiction fluide, optimiste sans être entièrement désincarné et attentive aux tensions du travail contemporain. Si vous souhaitez soutenir Raphaël Giordano, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.